Tiroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakis à la présentation de cette édition du mardi 17 août 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Niger, au moins 37 civils tués lors d'une nouvelle attaque dans l'ouest du pays. La SADC salue une transition démocratique exemplaire de la Zambie où les attentes sont fortes. Au Bénin, les autorités menacent de supprimer un quartier de Cotonou installé illégalement.
Cette décision n'est pas du tout la bienvenue. Je m'attendais à ce que, d'ici quelques temps, une décision soit favorable à cette population.
L'ancien président George W. Bush, qui a envahi l'Afghanistan il y a 20 ans, estime que les États-Unis doivent évacuer les Afghans menacés. En Haïti, le séisme ravage les espoirs des survivants du cyclone Matthew 5 ans après. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Un nouveau massacre de civils dans l'ouest du Niger, proche du Mali. Des djihadistes présumés ont tué au moins 37 personnes, ce qui porte à plus de 450 le nombre de morts dans cette région depuis le début de l'année. Les précisions de notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
Selon des sources locales, les 37 victimes, dont 14 enfants et 4 femmes, ont toutes été massacrées alors qu'elles cultivaient leur champ. Ce qui semble être le nouveau mode opératoire des assaillants armés qui, cette fois-ci encore, seraient venus en moto du côté de la frontière malienne. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Le gouvernement nigérien n'a pas non plus communiqué encore sur ce énième massacre de civils dans cette zone. Le village de Dareide est ainsi endeuillé deux fois en l'espace d'un mois. À la fin du mois de juillet dernier, en effet, une dizaine de civils avaient été massacrés dans les mêmes conditions. Plus récemment encore, le 9 août précisément, le village de Falam Zandam, situé toujours dans le département du Bani Bangou, a été visé par une attaque d'hommes armés avec comme bilan officiel 15 personnes tuées. Dans un récent rapport, l'ONG internationale Human Rights Watch s'inquiétait de la hausse des atrocités commises par les groupes islamistes armés dans cette partie du pays. Elle a recensé plus de 400 civils tués depuis le début de l'année et demandé au gouvernement nigérien d'intensifier ses efforts de protection des villages vulnérables. Abdelrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Dans le nord-est de la RDC, des affrontements opposent l'armée à des miliciens dans la province orifère d'Ituri, où 3 ressortissants chinois sont portés disparus depuis dimanche. L'armée avait annoncé lundi le déploiement de militaires pour rechercher les disparus dans le secteur du village d'Itendei, dans le territoire de Djougou, au nord de Bunia. Au Rwanda, Paul Rusesabagina, dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, sera fixé vendredi sur son sort. Jugé pour 9 chefs d'accusation qu'il conteste, dont celui de terrorisme, il risque la prison à vie. L'ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines est accusé par Kigali d'être responsable d'attaques meurtrières menées par un groupe rebelle au Rwanda. En Zambie, dans son premier discours à la nation hier, le président élu Hakainde Hichilema a promis une meilleure démocratie et des investissements économiques tout en critiquant le régime brutal de son prédécesseur Edgar Lungu. Avec Nani Tetalani.
Nous favoriserons une meilleure démocratie, l'état de droit, le rétablissement de l'ordre, le respect des droits de l'homme et des libertés, a indiqué Hakainde Hichilema, surnommé HH, qui a été lui-même arrêté une quinzaine de fois depuis qu'il a fait de la politique. Il a assuré que son parti a été victime d'un régime brutal, mais qu'il ne fera pas la chasse aux sorcières. Selon lui, l'état de droit va favoriser plus d'investissements économiques. Les analystes estiment que HH devra s'atteler à plusieurs chantiers, dont résorber la dette de son pays qui s'élève à plus de 12 milliards de dollars. Son pays est le premier à être pris en défaut de paiement sur les intérêts de la dette en 2020. L'homme d'affaires de 59 ans, qui se présentait pour la 6e fois à la présidentielle, a gagné en grande partie pour sa promesse de redresser l'économie. Il a aussi promis de supprimer les cadres, qui sont des groupes d'autodéfense ou bras armés des deux grands partis politiques et qui ont été accusés de semer la violence dans le pays.
La SADC a félicité mardi la Zambie d'avoir réussi une transition politique en douceur. fait rare et exemplaire sur le continent après la victoire de l'opposant à Kainde Hichilema. C'est la troisième fois que le pouvoir passe à l'opposition en Zambie depuis 1991, sur un continent où les dirigeants se maintiennent souvent au pouvoir pendant des décennies. La haute commission électorale libyenne a clos mardi la plateforme des inscriptions en ligne. Plus de 2 830 000 de Libyens sont inscrits pour les élections présidentielles et législatives prévues en décembre, a annoncé la commission électorale à Tripoli. En début d'année, un gouvernement unifié et transitoire a été installé avec pour mission d'unifier les institutions et de mener le pays à des élections législatives et présidentielles le 24 décembre. La police algérienne a annoncé mardi l'arrestation de 25 suspects portant à 61 le nombre de personnes appréhendées pour le lynchage et l'immolation d'un homme accusé à tort de pyromanie en Kabylie, une région ravagée par des feux de forêt. La Cour constitutionnelle ougandaise a abrogé la loi anti-pornographie en vigueur dans le pays depuis 2014, dont plusieurs articles comme l'interdiction du port de la mini-jupe étaient dénoncés par des organisations féministes et de la société civile. Selon le jugement publié lundi, cette loi est déclarée incompatible ou contraire avec la Constitution. L'Organisation mondiale de la santé OMS a indiqué mardi qu'en plus du cas confirmé de contamination par le virus Ebola détecté en Côte d'Ivoire, un cas suspect et 9 cas contacts ont été identifiés et sont suivis. L'OMS a jugé extrêmement préoccupant que ce cas se soit déclaré à Abidjan, une métropole de plus de 4 millions d'habitants, 2 mois après l'annonce de la fin de l'épidémie en Guinée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur et numéro 2 des talibans, est rentré en Afghanistan en provenance du Qatar, où il dirigeait le bureau politique du mouvement, 2 jours après la reprise du pouvoir. Toujours en Afghanistan, les réactions continuent après la chute de Kaboul aux mains des talibans. La Chine fustige ce qu'elle appelle une pagaille laissée par les États-Unis, tandis que le chef de l'OTAN met en cause l'échec des autorités afghanes. Le point avec Abdulrahman Dia.
Jens Stoltenberg défend l'engagement des troupes de l'Alliance en Afghanistan, expliquant que les dirigeants de ce pays ont échoué à s'opposer aux talibans et à empêcher leur prise du pouvoir à Kaboul. Les forces de l'OTAN ont combattu bravement en Afghanistan, mais n'ont pas réussi à sécuriser le pays. C'est l'échec des autorités afghanes qui a conduit à ce que nous voyons aujourd'hui, a-t-il martelé lors d'une conférence de presse ce mardi. La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite ouverte à l'accueil contrôlé de réfugiés afghans vulnérables qui fuient le régime taliban, tout en admettant la difficulté de trouver un accord sur le sujet entre partenaires européens. Quant à la Chine, qui partage une frontière avec l'Afghanistan, elle a accusé ce mardi les États-Unis de laisser une terrible pagaille avec le retrait. Pékin s'est dit disposé à avoir des relations avec le nouveau régime. Sur place à Kaboul, les activités reprennent progressivement. Les magasins ont rouvert et les talibans ont annoncé une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État. Moscou et Ankara disent saluer ces messages positifs des talibans.
Les États-Unis ont la responsabilité et les moyens d'évacuer les Afghans qui les ont aidés en Afghanistan, a estimé mardi l'ancien président George W. Bush, qui a dit sa profonde tristesse face à la prise de pouvoir des talibans. En Haïti, 3 jours après le puissant séisme qui a frappé le pays faisant plus de 1 400 morts, les secours s'activent encore à fouiller les décombres à la recherche d'éventuels survivants. L'approche d'une forte tempête menace d'aggraver la situation. Le point avec Rosine Munezero.
Selon la protection civile haïtienne, le séisme a fait 1419 morts et plus de 6900 blessés. Plus de 37 000 maisons ont été détruites et la dépression tropicale grasse fait planer le risque d'inondation et de glissement de terrain en Haïti et dans la République dominicaine voisine, selon le Centre national des ouragans basé à Miami. dans la petite ville balnéaire de Port-Salut comme dans le reste des régions affectées. Les habitants font face à un dilemme, rester dehors ou rentrer dans des bâtiments endommagés pour s'abriter des fortes intempéries. L'armée américaine a annoncé lundi la constitution d'une mission militaire conjointe avec le déploiement d'une équipe chargée d'évaluer la situation. Le premier ministre haïtien Ariel Henry a décrété l'état d'urgence pour un mois dans les quatre départements affectés et a invité la population à l'unité nationale. Le pays est en crise depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet. En 2010, un autre puissant séisme avait fait plus de 200 000 morts et au moins 300 000 blessés.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique, suivez la Minute Éco signée John Lindon.
Au Burkina Faso, la société Onatel a réalisé un bénéfice de 31 millions de dollars au premier semestre 2021. Selon Financial Afrique, ce bénéfice net de l'opérateur global de télécommunications est en hausse de 19,8% comparé à la même période de 2020. Côté à la Bourse régionale des valeurs mobilières, la société offre une diversité de produits et services sur les lignes fixes, le mobile et Internet. À Abidjan, plus de 192 pays membres de l'Union postale universelle sont réunis en ce moment. Selon Afrique Tribune, il est question de plancher sur la stratégie 2021-2024 de l'Union postale universelle, appelée stratégie d'Abidjan. Ce rendez-vous d'espère doit également faire la part belle au développement du e-commerce en Afrique. Il s'agit du premier congrès de l'Union postale universelle qui se tient en Afrique subsaharienne en 147 ans. Et le second après celui de 1934 en Égypte. Ici aux États-Unis, la société spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a annoncé lundi avoir porté plainte devant un tribunal fédéral contre l'agence spatiale américaine. La NASA avait annoncé en avril avoir attribué à la société d'Elon Musk le projet de construction du système d'alunissage habité pour 2,9 milliards de dollars. La NASA ambitionne avec son programme Artemis de renvoyer des astronautes américains sur la Lune en 2024, dont la première femme, un calendrier considéré comme très ambitieux.
En transition, nous passons à votre page des sports. Comme à l'accoutumée, Yacouba Ouedraogo avec vous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. C'est aujourd'hui qu'a lieu à Yaoundé le tirage au sort de la prochaine CAN prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. L'Algérie tenante du titre est le gros poisson à éviter. Le Cameroun, le Sénégal et la Tunisie sont aussi des prétendants au titre. En tant que tête de série aux côtés du Maroc et du Nigeria, un statut que n'ont pas l'Égypte, sept fois championne, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Mali, principaux outsiders de cette CAN. Six poules de quatre équipes sont attendues pour cette deuxième CAN à 24 équipes. Les premiers, les deuxièmes ainsi que les quatre meilleurs troisièmes de chaque groupe accéderont au huitième de finale. Et justement, pour le pays d'accueil de cette édition, la Coupe d'Afrique des Nations de football est une lueur d'espoir. Le Cameroun, l'une des principales économies de la région, tourne en effet au ralenti, frappé par la crise du Covid-19 et deux conflits sur son territoire. Le gouvernement rassure sur l'avancée des travaux, mais à quel prix ? Bagassi Koura.
C'est à Yaoundé que se jouera le 9 janvier 2022 le match d'ouverture de la prochaine CAN. Après moult polémiques et retards dans les travaux, les 60 000 places du stade d'Olembe sont installées et la pelouse est déjà bien verte. Jugé incapable d'organiser en temps et en heure la CAN 2019, le Cameroun a été remplacé au pied levé par l'Égypte. L'heure de la revanche a donc sonné pour le pays. Narcisse Mouel-Okombi est le ministre camerounais des Sports et président du comité d'organisation de la CAN 2021.
La CAN, à grand trait, apparaît comme une activité de souveraineté, de rayonnement international et de prestige de l'État camerounais. C'est pour cela que l'État camerounais y a investi des moyens considérables.
Mais ces investissements considérables vont-ils profiter aux Camerounais ? Rien n'est moins sûr pour Dimitri Mebenga. Il est chef du service de sport au quotidien Mutation. Il y voit un gouffre financier.
C'est vrai que ça nous procure des infrastructures, mais ça fait saigner le contribuable camerounais. Lorsque vous avez un stade dont le coût initial était de 163 milliards et que le président consente à un déblocage de 55 milliards de plus, sans justifier le pourquoi est-ce que le coût a été ajouté.
Mais les professionnels du tourisme, eux, veulent croire que la CAN peut relancer l'économie du pays en attirant à nouveau des visiteurs. Cet hôtel 4 étoiles à Yaoundé s'est ainsi lancé dans des travaux d'agrandissement. Françoise Puyenet est le PDG de l'hôtel Franco.
Moi, je suis tellement fière de faire renaître davantage la confiance aux femmes, aux jeunes, arriver à construire par eux-mêmes l'Afrique.
Pour l'instant, même si le gouvernement se veut rassurant, les polémiques vont toujours au bon train dans le pays. Seul le stade semble pouvoir être prêt. Attends.
Merci, Bagassi.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. La Russie, qui appelle à un dialogue inter-afghan, a jugé mardi que les talibans envoyaient des signaux positifs. La France est l'un des pays qui accorde le plus la protection aux Afghans, a affirmé mardi la présidence française. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a imputé mardi la prise de pouvoir des talibans à l'échec des autorités afghanes. Que va-t-il se passer maintenant? John Lindon a posé la question à René Leck, analyste politique, joint à Washington DC.
Ce qui va se passer, c'est que les talibans obtiennent ici une victoire totale, à la fois militaire. Bon, on peut discuter sur la dimension de la victoire militaire, mais de toute évidence, une victoire politique. Ils reviennent aux affaires comme ils l'ont été il y a plus de 20 ans. Donc, on peut s'attendre à un pays qui va être dirigé sur des bases idéologiques et radicales, fondamentalisme religieux. Et bien entendu, la première question qui se pose à beaucoup, quel va être le sort des femmes qui ont été si maltraités à l'époque où ils étaient aux affaires. Il y a quelques garanties qui semblent donner, quelques indications qui semblent dire qu'ils vont permettre aux femmes de s'instruire, d'aller à l'école, même jusqu'à l'université. Je ne sais pas si cela va se faire, mais en tout cas, le sort des femmes sera certainement peu enviable.
L'ancien président George W. Bush s'est adressé aux militaires, les remerciant pour leur contribution dans la lutte contre le terrorisme. Mais c'est justement ce même George Bush qui a commencé il y a 20 ans la guerre contre les talibans après les attaques du 11 septembre. Comment juger cette sortie?
Oui, écoutez, cette sortie, elle est surprenante, et plus par rapport à ce qu'il ne dit pas que par rapport à ce qu'il dit. Après 20 ans de guerre, la guerre la plus longue des États-Unis, 300 millions de dollars de budget dépensé par jour, hein, pendant 20 ans, ce qui fait une somme cumulée de 2260 milliards environ, selon l'université Brown University, ce qui correspond à peu près à 2,5 siècles du budget actuel, du budget annuel actuel d'un pays comme le Sénégal. Donc vous vous imaginez, après tant d'investissements, après tant de morts du côté afghan comme du côté américain et des alliés, on a envie de se dire tout ça pour ça, et quelque part la réponse est bien tragique.
Est-ce que ce qui se passe en Afghanistan, où les talibans ont donc finalement, vous le disiez, pris le pays, ne peut pas inspirer Boko Haram et les autres groupes terroristes qui sévissent notamment dans les pays du Sahel, pour parler de l'Afrique?
Oui, on peut se dire qu'avec des investissements aussi colossaux d'un point de vue financier, d'un point de vue militaire, la plus grande puissance militaire du monde n'est pas arrivée à vaincre les talibans. Donc on peut se dire, mais écoutez, il y a des espaces, ça ouvre des possibilités. Et j'imagine que d'une manière ou d'une autre, à court terme, à moyen terme, plutôt à moyen terme, je dirais, là on va se sentir sur le terrain, notamment dans le Sahel.
René Leck, analyste politique basé à Washington DC. La prise de contrôle rapide de l'Afghanistan par les talibans fait craindre que cela puisse encourager d'autres groupes islamistes dans le monde, comme Al-Shabaab en Somalie. Les experts craignent que si les forces internationales tentent de remettre la sécurité au gouvernement somalien, le monde pourrait voir une répétition de ce qui s'est passé en Afghanistan. Mohamed Kahi de la VOA rapporte depuis Mogadiscio Le récit de Rosine Mounezer.
L'ancien responsable du renseignement somalien, Abdul Salam Goulaïd, a déclaré que la Somalie pourrait connaître une évolution similaire, à moins que le gouvernement somalien ne mette fin à sa dépendance excessive vis-à-vis des troupes internationales. Il a pris la parole lundi, un jour après que les médias pro-Al-Shabaab en Somalie ont célébré la chute du gouvernement afghan au profit des talibans.
Al-Shabaab ne possède pas la puissance militaire des talibans. Il ne fait aucun doute que rien ne va les arrêter s'ils choisissent cette voie.
En avril, les forces armées somaliennes ont assumé un rôle de premier plan dans leurs opérations, comme indiqué dans un plan de transition pour la Somalie approuvé par le gouvernement et la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. Le plan est une stratégie dans laquelle les soldats de la paix de la MISOM transféreront progressivement les responsabilités de sécurité aux agences de sécurité somaliennes avant un retrait. Le plan signé en 2018 prévoit une réduction des effectifs. Le mois dernier, l'armée a déclaré que plus de 250 militants d'Al-Shabaab ont été tués lors d'opérations militaires somaliennes sans l'aide de la MISOM. S'exprimant lors d'un entretien avec les médias locaux, le conseiller à la sécurité nationale du président somalien, Abdi Saïd Ali, a fermement rejeté toute comparaison des situations sécuritaires à Mogadiscio et à Kaboul, ou de l'armée somalienne aux forces afghanes. Abdi Saïd Ali, conseiller à la sécurité nationale.
Al-Shabaab et les talibans ne sont pas les mêmes, quelles que soient les croyances des gens. Les forces armées somaliennes contrôlent actuellement et sont responsables de la sécurité dans la plupart des régions du pays avec le soutien des soldats de la MISOM.
Al-Shabaab a été chassé de Mogadiscio en 2011 par les forces somaliennes et de l'Union africaine, mais le groupe mène toujours des bombardements et des attaques éclairs. Il a récemment menacé de perturber les élections somaliennes en cours, avertissant les délégués tribaux de ne pas participer au processus.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le retour triomphal des talibans à Kaboul, 20 ans après en avoir été chassés par l'armée américaine. La prise de la capitale afghane avant même la fin du retrait américain a surpris Washington et ses alliés occidentaux. L'administration de Joe Biden, sous le feu des critiques, défend sa décision de retirer les troupes américaines suite à un accord à Doha entre les talibans et les États-Unis sous Donald Trump. Quelles sont les conséquences du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan pour la région et les États-Unis? Nous allons débattre de tout cela ce jeudi à 19h30 universel sur VOA Afrique et VOA.
Au Burkina Faso, un récent rapport révèle que des responsables communautaires exploitent les femmes déplacées. Ils exigent d'elles des relations sexuelles ou de l'argent en échange d'une aide alimentaire. Un responsable local estime que ces incidents pourraient être la partie visible de l'iceberg pour 1,3 million de personnes déplacées. Henry Wilkins s'est entretenu avec une victime présumée dans la ville d'Okaya, dans le centre nord. Récit avec Yakuba Ouedraogo.
Dans la crise humanitaire burkinabé, la nourriture se fait rare. Les personnes déplacées à l'intérieur de ce camp non officiel de la région du centre nord déclarent ne pas recevoir d'aide de l'État ou d'organisations à but non lucratif. Cette femme, dont nous protégeons l'identité, réside dans une communauté d'accueil de personnes déplacées.
Nous sommes restés dans nos abris pendant 6 mois, sans même une quantité de nourriture de base. À moins que vous n'ayez des relations sexuelles avec les personnes qui distribuent la nourriture, ou que vous vous prostituiez, ou que vous alliez mendier en ville. Beaucoup de femmes contractent des maladies sexuelles. J'ai dû survivre jusqu'au retour de mon mari et nous avons loué une petite maison.
Un rapport publié le mois dernier par The New Humanitarian a révélé que 8 personnes déplacées ont été forcées d'avoir des relations sexuelles en échange d'une aide alimentaire dans la région du centre nord. Sam Mednick est journaliste à The New Humanitarian.
D'après les reportages que j'ai faits et les femmes à qui j'ai parlé, il semble que tout le monde sait que cela se produit. Peu de gens sont vraiment prêts à en parler. Les femmes à qui j'ai parlé ont dit qu'elles connaissaient d'autres femmes qui se sont également inscrites pour la nourriture et ont du mal à trouver de l'aide alimentaire. Elles disent qu'on leur a demandé la même chose, soit le sexe, soit de l'argent, pour qu'on ajoute leur nom sur les listes d'inscription.
Le rapport indique qu'un système à but non lucratif pour prévenir et lutter contre les abus n'est pas entièrement mis en place. Un responsable d'une ville avec une grande population de personnes déplacées, qui a parlé sous couvert d'anonymat, a déclaré que l'ampleur du scandale sexe contre nourriture est probablement beaucoup plus importante que ce qui est rapporté.
Il y a tellement de femmes qui nous abordent à ce sujet, mais je dirais qu'il doit y avoir entre 20 et 30 femmes déplacées.
Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a refusé de nous accorder une interview filmée, mais a répondu à nos questions par courrier électronique. Le gouvernement du Burkina Faso, soutenu par l'ONU, dispose d'un numéro vert pour déposer des plaintes dans tous les cas d'abus sexuels ou sexistes. Des points focaux sont en place pour détecter tout signe d'abus ou d'exploitation sexuelle, humanitaire et autres. Les travailleurs sont formés à leurs responsabilités et ont l'obligation de rendre des comptes. Le ministère burkinabé des Affaires humanitaires n'a pas répondu à la demande de commentaires de la VOA.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Bénin, les autorités menacent de faire raser un quartier de Cotonou. L'argument, c'est que ce village de pêcheurs a été installé illégalement. 632 ménages, soit plus de 3000 habitants, sont ciblés. Ils devront quitter ce quartier au plus tard, le 1er septembre. Les habitants affirment avoir suivi les règles et appellent le chef de l'État à la rescousse. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Ces déguerpissements sont annoncés au nom de l'assainissement. Il s'agit de Fieyon, un village de pêcheurs situé sur la côte de Cotonou et qui s'est construit au fil des générations tout au long de la route des pêches située dans le 12e arrondissement de Cotonou. Même l'autorité locale est surprise par la décision et confie ne rien comprendre. Maké Kengpa est le chef de ce quartier.
C'est une grande surprise parce que je ne m'attendais pas du tout. Et les démarches qu'on a eu à mener à l'endroit du directeur de la NDF, cette décision n'est pas du tout la bienvenue. Je m'attendais à ce que d'ici quelques temps, qu'une décision soit favorable à cette population.
Pour justifier sa décision, le gouvernement explique dans un récent communiqué que les travaux de lotissement de la zone n'ont pas été approuvés par les autorités compétentes. Faux, souligne Mac Akono, un résident du quartier.
Ce lotissement a été mené au niveau de l'intérieur, précisément sous l'égide de la Commission nationale des affaires domaniales. Le ministère a pris des ordres de recruter cabinet de géomètre pour le faire. Ce cabinet a reçu bel et bien et sa lettre de commande du ministère date du 17 août 2001.
Certains résidents comprennent le bien fondé de la décision mais appellent à un déguerpissement non brutal.
Ça fait un peu mal, mais nous on est obligé de supporter, on n'a pas le choix. Moi principalement, moi j'ai eu la chance quand même d'avoir une avance pour me déloger. Mais il y a d'autres qui n'ont pas trouvé, il y a d'autres qui ont trouvé l'argent, mais ils n'ont pas trouvé la place. Donc
il y a des cas qui vont faire mal. Moi par exemple, ça doit me faire mal, j'ai dépensé beaucoup, mais j'ai cassé tout ça. Ça fait mal aujourd'hui, mais demain ça serait bon.
Les gousses vont diminuer. Donc je vois que ça va donner un bon image pour notre pays.
Tout ça là, l'État en cas de voir tout ça là.
Pour certains habitants, cette urbanisation sauvage qui veut tout détruire si son chemin n'est pas une bonne chose. Mais les acteurs engagés dans le projet d'aménagement de la côte maritime du littoral insistent sur la paix sécuritaire et celui de protection de l'environnement. Philippe Zoumenou est le coordonnateur du programme de protection du littoral.
La protection des côtes, c'est une initiative du gouvernement pour protéger, sécuriser et permettre à l'environnement physique de la bande côtière de tenir bon face à l'érosion côtière.
Pour Dr Corneille François Kadouidé, directeur général de l'ABE, l'Agence béninoise pour l'environnement, l'État a permis cette situation en manquant de fermeté.
Il y a eu un laisser aller, appelons ça comme ça, qui a fait que les tests ne sont pas venus pour réglementer dès le début.
Ce n'est pas bien, on a fait des lotissements et puis on amène le courant jusque-là, c'est pour les encourager.
Le 1er septembre n'est pas loin et les Cotonois pourraient assister à un déguerpissement sous haute tension. Parce que la population qui s'est installée le long des côtes n'envisage pas s'en aller de leur maison construite en matériaux précaires pour la plupart. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges et Léonard Sagnon et Michel Joseph. Eric Magratiza a été avec vous à la présentation. Merci à Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.